Bonjour à tous et bienvenue dans
la matinale infernale.
Nous sommes toujours aussi nombreux ce matin au micro de Radiographie. Je suis Aurore et avec mon équipe de chroniqueurs infernales et amateurs, issus d'un atelier d'écriture organisé par les bibliothèques de Compiègne et en partenariat avec Graphite. Cette phrase a été longue. Nous avons bien l'intention de vous faire passer un moment explosif pour débuter cette semaine. Allez, je vous les présente encore une fois. Et si vous nous rejoignez, comme ça vous allez pouvoir comprendre qui sont nos chroniqueurs infernaux. Avec nous ce matin, Ben et sa chronique musique sur les racines du rock.
Salut.
Nous avons aussi Liam, notre jeune chroniqueur transgenre qui continuera à nous dérouler les lettres de l'alphabet LGBT+, et encore.
Hello.
Avec nous, Naël, notre petit chroniqueur sportif.
Bonjour à tous.
The Monitor émerveillera notre regard sur le monde avec sa chronique Pêche Nature.
Salut tout le monde.
Camille continuera à prendre soin de nous encore une fois.
Bonjour, bonjour.
Et j'ai oublié Amy qui nous embarquera avec elle dans ses voyages en train.
Hello.
Nous sommes au complet ce matin et je crois que le voyage peut commencer. Si vous nous écoutez dans le train, bah ça tombe bien parce qu'on commence avec les trains de vie d'Amy.
Alors bonjour chers auditeurs. Et oui, les trains ont toujours une histoire à raconter. Donc aujourd'hui, Compiègne s'éveille. Il est 7h30. Le bus me dépose sur mon point de départ, la gare de Compiègne, rive droite. Je pense à composter mon billet en route vers ce nouveau voyage. L'odeur des croissants chauds me chatouille les narines à travers mon masque. Le hall est bondé de voyageurs. Le temps est pluvieux et doux. Mais me voici en route une nouvelle fois vers ma destination, Paris. Train direct, sans arrêt. Mon train de 8 heures va bientôt arriver. Les jours se suivent, mais chaque jour est différent. Après 10 années des mêmes trajets, vous savez, on ne s'en lasse pas pour autant. N'avez-vous jamais tenté de deviner la vie d'une personne que vous croisez dans le hall d'une gare? Eh bien moi, j'apprécie beaucoup. J'observe le monde autour de moi et j'essaye de le décoder avec mes sens. Je suis l'histoire de certains, j'en croise d'autres. Personne ne s'attarde généralement dans une gare. C'est avant tout un lieu de passage, mais pour moi, c'est une découverte sans cesse renouvelée. Mis à part les plus jeunes d'entre nous qui ne se souvient pas de cette élégante cabine photographique à portraits et à souvenirs dénommée Photomaton. Un personnage à elle toute seule. Puisque le Photomaton existe toujours sur place, mais on pourrait croire qu'il part en désuétude. Je me souviens alors avec nostalgie du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Vous vous souvenez dans le film de l'inconnu des photomatons qui jettent systématiquement ses photos d'identité sous la cabine? Ou encore du nain de jardin qu'Amélie Poulain faisait voyager à travers l'espace et pourrait-on même dire à travers le temps? Mesdames, messieurs, le train en provenance de Maubeuge et à destination de Paris Nord va entrer en gare voie 2. J'aperçois alors une autre habituée du côté du photomaton. Elle se prénomme Cotone, jeune étudiante d'origine japonaise. Elle dénote avec son randoseru de couleur rose ce sac à dos japonais traditionnel. En japonais, son prénom signifie « son de la harpe ». Elle finit de prendre la pose sur le siège de la cabine photo, d'où se dessinent ses chaussures agitées au bas du rideau, reflétant son impatience et guettant l'arrivée imminente du train. Une fois ses photos terminées, elle sort du photomaton pour attendre ses fameux clichés. J'entends alors les trains klaxonner, ou plutôt siffler. D'ailleurs, pourquoi fait-il cela? Cette sonnerie reconnaissable amuse bien évidemment les plus petits et intrigue les plus grands. Est-ce un signe de cordialité entre conducteurs? Un trait d'humeur particulier ou une mesure réglementaire et de sécurité pour les voyageurs? Cela est bien mystérieux. Cotone m'aperçoit et me rejoint sur la voie. Nous nous installons ensemble dans le train. Je lui fais remarquer que son randoseru est plutôt original. De là, nous échangeons sur la culture japonaise. Cotone me raconte qu'au Japon, les sonneries de train, en partance, sont appelées « asha melody », littéralement la mélodie du départ du train. Elles peuvent être des openings d'animés, des chansons populaires ou des chansons issues de films cultes. On est loin du typique chouchou des locomotives à vapeur dans le vocabulaire enfantin qui rythmait notre quotidien dans le passé. J'ai déjà entendu nos anciens dire qu'une locomotive à vapeur, ça respire, ça souffle. Ah, les interactions entre l'humain et la machine sont tellement complexes. À l'inverse, au Japon, m'explique-t-elle, on voyage dans le silence total. Cela peut paraître assez déroutant dans nos trajets, au vu des générations qui s'y entremêlent. Lors de nos discussions, elle m'explique que sa vie est réglée comme les trains, d'une régularité de métronome. Je remarque alors qu'elle sort son bento de son sac. Elle me propose de partager des mushi, petit gâteau japonais, en regardant le paysage picard défiler. Depuis la fenêtre du compartiment où le monde réel passe à toute vitesse, tout devient abstraction. La réalité se multiplie en une cascade incessante d'images en mouvement. La conductrice du train détaille au micro le chemin déjà parcouru. Nous entrons en gare de Paris-Gare du Nord, terminus de ce train. Je voudrais vous dire qu'Otone, sayonara, et merci d'être une passagère de mon train.
Eh bien, Amy, merci pour ce petit voyage au Japon. Et je voulais terminer en te disant « Jamatane », qui signifie « à la prochaine fois » en japonais.
Merci.
Un autre voyage nous attend maintenant avec Liam. On s'infiltre au cœur des communautés LGBT pour mieux les comprendre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue à vous dérouler l'alphabet des communautés LGBT, QQIAA, P, ou plus rapidement appelé LGBTQ+. Parlons de B, qui signifie bi. Il s'agit d'un garçon ou d'une fille qui peut aimer une personne d'un genre opposé ou une personne du même genre. Les bi peuvent aussi avoir une préférence pour un genre plus qu'un autre ou tout en étant attirés par les deux. Oui, les bisexuels sont des indécis par nature. Pour eux, c'est compliqué de choisir entre une fille ou un garçon. Leur drapeau est composé de 3 bandes horizontales. La première est rose, la deuxième est violette et la troisième est bleu foncé. Opposant ainsi les couleurs clichés, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Quand on parle de communauté bi, on peut aussi avoir un symbole particulier. Vous connaissez tous le symbole féminin avec un cercle et une croix vers le bas. Et son masculin, un cercle avec une flèche qui pointe vers la droite. Eh bien, le symbole bi croise ces deux symboles avec celui de l'infini, une sorte de 8 horizontale. Intéressant, n'est-ce pas? Passons à la lettre P. C'est le P de pansexuel. Avant que je ne dise à nos auditeurs ce que ce mot signifie, est-ce que dans le studio, certaines personnes connaissent la signification de ce mot?
Moi, non.
Moi non plus.
Ça n'a rien à voir avec l'animal.
Non, je crois pas, hein. Tu vas nous dire ça, Liam.
Ok, merci. Donc, déjà, sur 8 personnes dans le studio, il y en a au moins 3 qui connaissent pas ce mot. Eh bien, pansexuel signifie qui aime les garçons et les filles. Mais vous allez me dire, bisexuel et pansexuel, c'est pareil alors? Pas du tout, je vous explique. En fait, quelqu'un de pansexuel, ce n'est pas quelqu'un d'indécis comme la personne bisexuelle. Quelqu'un de pansexuel aime tout le monde. On s'en fiche des genres, pour lui ça n'a aucune importance. Vous voyez la différence? Elle tient à la perception que le pansexuel a des autres. Et des genres, il n'y en a pas que 2, comme beaucoup le pensent. Il y en a bien plus et je vous les expliquerai au fur et à mesure que je déroulerai les autres lettres. Ah oui, j'en profite aussi pour pousser mon petit coup de gueule. Stop aux clichés! Arrêtez de dire aux pansexuels aimer les animaux, les objets, quand ils disent qu'ils aiment tout le monde, car honnêtement, c'est pas leur kiff. Ils s'en tiennent aux personnes et ça fait déjà assez de monde comme ça. Je termine avec leur drapeau qui est composé de 3 bandes horizontales. La première est rose, la deuxième est jaune, la troisième est bleue. Des couleurs bien tranchées pour englober tout le monde, à leur image et cet amour qui dépasse les gens.
Ah, donc rien à voir avec le pan. Merci, en tout cas j'ai appris plein de choses avec ta chronique, c'était cool.
Ah, je pensais que tu parlais du pangolin, moi, tu vois.
Non, l'animal avec ses plumes.
Ah, ok, ça marche. Eh bien, on va passer un bon bain de nature pour ce matin avec The Monitor. Avec le Monitor, vous deviendrez
plus fort.
Super idée, un bon bain de nature bien froid au matin. Bonjour à tous. Parmi les clichés pêche nature que j'entends régulièrement de la part de mes clients, il y a celui-ci. Je préfère remettre des petits poissons à l'eau pour qu'ils grandissent et parfois garder un gros poisson pour manger. Eh ben non. En réalité, il faut faire l'inverse. Par exemple, un gros poisson, eh bien, il a d'autant plus d'œufs dans son organisme, donc il peut finalement être beaucoup plus performant en tant que reproducteur qu'un petit. D'autant plus que les milieux sont de plus en plus dégradés, malheureusement, pollués par l'homme. Donc il faut vraiment préserver ses géniteurs. Par exemple, en 2022, dans l'Oise, l'Aisne et les Canaux, c'est nouveau, ça vient de sortir, eh bien, il y a des fenêtres de capture qui vont être imposées. Qu'est-ce que c'est que ça, des fenêtres de capture ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va remettre à l'eau des poissons, notamment des brochets, par exemple, entre 60 centimètres, en dessous de 60 cm, on va relâcher ces poissons. Entre 60 et 80, on va pouvoir les conserver, donc les ramener à la maison pour faire plaisir à quelqu'un, les manger. Et on va encourager les personnes à remettre les poissons supérieurs à 80 cm, 1 mètre et plus, parce que les brochets peuvent grandir encore plus, pour préserver le milieu, préserver ces espèces. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et ça va, je l'espère, dans le futur, tout changer. De mon temps, il y avait des rivières remplies de truites et des plans d'eau remplis de brochets. Ah ! Doucement, papy, on se calme. C'est vrai, c'était comme ça il y a 60 ans. Mais depuis, la planète a bien changé et nous avons ouvert l'œil pour bien comprendre ce que nous avons modifié dans la nature, car nous sommes les responsables. À l'époque, conserver 10 truites sauvages par jour et par pêcheur sur une distance de 25 mètres de rivière, ça choquait personne, car c'était ancré dans la culture de pêcher pour manger. Et on se disait aussi que c'était pas si grave, car il y avait 50 autres truites sur cette rivière un peu plus loin, et qu'elles allaient aussi se reproduire, donc patati. Bien, sur les 10 truites, 2 étaient peut-être savourées en famille, 4 placées au congélateur pour plus tard, et 4 offertes à un voisin. Autrement dit, ce jour-là, 2 poissons étaient réellement utiles à conserver pour le bon plaisir du pêcheur, 8 autres ont été prélevés de cette petite rivière pour rien. Même problématique pour les brochets, d'ailleurs, sur cette même époque. Mais revenons à notre époque. Cela est beaucoup plus difficile de conserver 10 truites sauvages sur 25 mètres de rivière pêchée. Surtout, cela n'a plus aucun sens. Les milieux naturels ont trop souffert de la pollution que nous avons générée par notre évolution industrielle et agricole, mais également des conséquences climatiques qui ont réchauffé aussi ces rivières. Aujourd'hui, lorsqu'on capture une belle truite sauvage sur une rivière, on doit surtout respecter la capture en se disant « Wouhou ! Comment elle a survécu à toutes ces agressions, celle-ci ? Et plouf, je la remets à l'eau. Va donc te reproduire. » Souvenez-vous de la chronique numéro 1. L'émerveillement est la première étape vers le respect. Alors, émerveillez-vous à regarder votre beau poisson repartir, vous le relâchez, et avec un peu de chance, il reviendra même vous rendre visite lors d'une prochaine pêche. Pensons loisirs, mais pensons aussi protéger le terrain de loisirs, le milieu naturel. Pour les générations qui arrivent, hashtag la ressource, hashtag pas illimité, hashtag fin de la chronique. À bientôt.
Merci The Monitor, c'est bien de le rappeler en effet parce que les ressources ne sont pas illimitées et même si on a la chance d'être dans un pays où on manque de rien, c'est encore plus je trouve de notre responsabilité de faire en sorte que ces ressources soient les plus durables possibles. La biodiversité en fait partie. Hein. Donc merci, voilà. Que diriez-vous d'un petit interlude musical en attendant nos prochains chroniqueurs ? Je propose qu'on parte dans un train japonais grâce à l'histoire d'Emi en écoutant l'opening de Demon Slayer pour suivre cette tradition japonaise dans les trains dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est parti !
Bye.
Et nous voilà de retour dans la matinale infernale. On continue notre voyage intérieur après cette musique avec la rubrique de Camille qui prend soin de vous, de nous et du monde.
Bonjour Aurore, bonjour chers collègues chroniqueurs et bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Bienvenue donc dans cette deuxième chronique qui vous veut du bien. La dernière fois, je vous ai offert des assiettes vides avec les différents jeûnes alimentaires. Aujourd'hui, je propose de remplir votre assiette, mais attention, pas avec n'importe quoi. Quand on est dans une démarche bien-être santé, tout naturellement, on commence à faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. Et bien sûr, il y a pléthore de régimes. Ici, je vous parlerai des principaux, mais surtout ceux qui favorisent et conservent notre capital santé. Alors, sans plus tarder, le régime cétogène. Alors, c'est un régime qui privilégie l'alimentation, une alimentation riche en lipides et en protéines, ce qui réduit drastiquement les glucides. Il faut savoir que ce régime, il est utilisé depuis plus de 100 ans pour soigner certaines pathologies, notamment l'épilepsie, grâce à ses effets anticonvulsifs ou d'autres maladies, notamment les maladies inflammatoires telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires par conséquent. Alors ce régime qu'on appelle cétogène ou kétogène, c'est la même chose, il a gagné en popularité ces dernières années grâce à la perte de poids. En fait, effectivement, ce régime vous fait perdre énormément de poids. Donc, concrètement, comment ça marche? Eh bien, cette alimentation cétogène, elle inverse totalement notre traditionnelle pyramide alimentaire et ses grands principes, puisque habituellement, le corps tire son énergie des glucides qu'on a consommés. et qui sont forcément nécessaires au bon fonctionnement. Ça, vous le savez tous. Mais dans l'alimentation cétogène, justement, on va réduire drastiquement les glucides. Et c'est ainsi que le corps va commencer à puiser dans ses réserves les glucides qu'il reste, qui sont entreposés dans le muscle et le foie. Et une fois que ces glucides sont éliminés, eh bien, il ne reste plus que les réserves de glycogène.
Les réserves de lipides, non, c'était pas ça?
Oui, c'est ça, les matières grasses. Merci, Aurore.
Je suis, hein, je fais de mon mieux.
Hein. Je te remercie. Donc, lorsque le corps utilise les lipides en absence de glucides, il se produit des déchets appelés corps cétoniques. On peut vérifier d'ailleurs cet état de cétose en se procurant des bandelettes d'analyse d'urine en pharmacie avec facilité. Et cela ainsi vous permet de savoir quand votre corps est en mode cétose, c'est-à-dire qu'il ne brûle plus de glucides, mais des lipides. Et donc, une fois qu'on atteint cet état de cétose, c'est à ce moment-là qu'est provoquée une diminution naturelle de l'appétit et qui va forcément réduire la quantité d'aliments que vous allez consommer et donc, par conséquent, une perte de poids significative. Donc, ce régime, c'est avant tout une grande quantité de lipides ingérés chaque jour. Et il faut savoir qu'il faut être vigilant au type de gras consommé. Donc, dans ce type de régime, il faut privilégier les matières grasses naturelles et non transformées. Consommer des acides gras, oui, mais des monoinsaturés. Autrement dit, des oméga-9, tels que les huiles d'olive, les huiles de sésame, les arachides et les acides gras polyinsaturés, nommés oméga-3 et 6, c'est-à-dire... préférer les graisses de bœuf aux huiles végétales. Voilà. Et on peut aussi ajouter dans notre consommation de gras, notamment les poissons gras comme le saumon, ou encore les fruits secs tels que les noix, les graines de chia, et bien sûr quelques légumes comme l'avocat qui sont riches en bons gras. Et encore plein d'autres choses naturelles et saines, agréables à manger. Alors, les points positifs de l'alimentation cétogène. Donc, bien sûr, le point positif et central, c'est une sensation de satiété efficace. Et donc, pas besoin de restrictions caloriques. Et c'est une alimentation qui apporte des lipides et des protéines de qualité, normalement. Et vous allez avoir, bien sûr, une perte de poids assez rapide. Un autre effet positif, c'est sur vos résultats sanguins, souvent les taux de lipides sont assez bons. Les points négatifs de l'alimentation cétogène. Alors le gros point négatif, c'est le manque de diversité alimentaire avec une restriction glucidique qui fait l'impasse notamment sur les céréales, les légumineuses qui sont quand même essentielles à notre alimentation. Et de plus, une alimentation riche en protéines et en gras va sursolliciter les reins et souvent engendrer une constipation. Donc un supplément en fibres et de vitamines est conseillé lorsqu'on veut suivre ce régime, car le faible contenu en fruits et légumes reste quand même le point noir de ce régime. Voilà, donc personnellement, moi je me méfie des régimes qui excluent tel ou tel aliment. Je pense que la clé d'une bonne alimentation réside dans l'équilibre, dans la nuance. Du gras, oui, mais pas n'importe lequel. Quant à éliminer totalement les glucides, je pense que les glucides sont nécessaires. On peut peut-être éliminer les sucres rapides et plutôt privilégier les légumineuses et les céréales. Ce qui va permettre quand même... Il faut quand même se permettre des petits écarts, c'est très important aussi. Donc voilà pour cette chronique qui vous fait du bien, chers auditeurs et auditrices.
Donc grosso modo, on peut faire le régime cétogène, mais pas de façon permanente en fait. Il faut que ce soit ponctuel pour une perte de poids rapide.
Oui, tout à fait. En fonction de notre objectif, oui, vaut mieux que ce soit limité.
Ok, super. Bah merci Camille de prendre soin de nous. Eh bien, place à la musique maintenant avec la chronique musique de Ben. Est-ce qu'on reprend la DeLorean aujourd'hui ?
Ouais, on reprend la DeLorean et direction 1944 à Kansas City. Un groupe de jeunes sort d'un magasin qui vient de braquer en courant en direction de leur voiture. Mais trop tard, la police est déjà là. Les braqueurs sont arrêtés et partent en maison de correction à Algoa, Missouri. L'un d'eux sortira 3 ans plus tard, son nom Charles Edward Anderson Berry, alias Chuck Berry. Né en 1926 à Saint-Louis, Missouri, et troisième enfant d'une fratrie de 6, le jeune Charles devient rapidement attiré par la pratique musicale. En 1947, donc, Chuck arrête ses larcins et se plonge à fond dans son solfège. Il apprend note par note les solistes de T-Bone Walker et rentre dans le Johnny Johnson Trio. Le jeune virtuose se fait vite remarquer avec des reprises de Nat King Cole, Bill Monroe ou Muddy Waters. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui fait rencontrer en 1955 Leonard Chess de Chess Records et avec qui il signera son premier hit Maybelline. Plus 1 million d'exemplaires vendus, la machine est en route. Roll Over Beethoven, School Days et bien sûr Johnny B. Goode qu'il écrit en 58 à destination de son partenaire Johnny Johnson. Des tournées grandioses avec les plus grands, Carl Perkins, Buddy Holly ou les Everly Brothers. Et c'est également un showman hors pair. Pour preuve, monsieur invente le fameux Duck Walk. Qu'est-ce que le Duck Walk? Eh bien, faites-le chez vous sur le morceau qui suivra cette chronique. Il suffit juste d'avancer sur un pied tout en dodelinant de la tête. Tout ça en jouant de la guitare, bien sûr. Ce pas a été immortalisé sur grand écran en 1985 par un certain Marty McFly. Et plus récemment, Angus Young, guitariste d'AC/DC, le pratique encore sur toute leur apparition, à l'âge de 66 ans. C'est beau. Le bon Chuck inspirera tout ce qui peut se faire en matière de rock. Celui-ci nous quittera le 18 mars 2017, 3 mois avant le lancement de son dernier album, Chuck.
Merci Ben, ben oui, on va écouter ça tout à l'heure, je pense que ça vous rappellera des souvenirs. Et après le poète du rock, eh ben, on va passer au grand poète du football avec Naël.
Je close cette émission après l'avoir entamée la dernière fois en vous parlant des différents tirs. Aujourd'hui, je vais faire le tour des plus grands joueurs du football du monde. Vous connaissez au moins sûrement de nom Pelé, ce joueur brésilien extrêmement connu et doué qui a remporté sa première Coupe du Monde à seulement 17 ans. Son coup spécial s'est marqué et débute, 1257 au total dans sa carrière. Ensuite, je vais vous parler de Diego Maradona, surnommé le Bambin, surnom dû à son petit gabarit. Il est argentin et surtout connu par le personnage qu'il incarne dans le football. Son coup spécial, c'est la main de Dieu en finale de la Coupe du Monde 1986. Ce joueur nous a malheureusement quittés en 2020. Bien sûr, comment ne pas parler de Zinedine Zidane, aussi appelé Zizou. Il est connu car c'est lui qui a mis ce mythique coup de tête face au Brésil pour nous offrir la première Coupe du Monde en 1998. Et je ne parle pas du coup de boule de 2002 face à l'Italien. Son coup spécial, la roulette sur son adversaire. Et j'ajouterai qu'il fait des passes au millimètre. Ah, notre Zizou. Il était entraîneur au Real Madrid. Cristiano Ronaldo, appelé CR7, a remporté 5 ballons d'or et il a commencé sa carrière au Sporting SC, un club au Portugal. Il est ensuite allé à Manchester United, puis au Real Madrid, pour ensuite revenir à United. Coup spécial de Ronaldo, c'est, si vous êtes entraîneur, vous pouvez le faire rentrer à tout moment et il pourra changer le cours d'un match. Enchaînons avec Léo Messi, appelé La Pulga, surnom dû au fait que son entourage et notamment ses frères le surnommaient ainsi. Cela veut dire la puce, car il avait des problèmes de croissance. Mais ça ne l'a pas empêché de remporter 7 ballons d'or. Il a commencé sa carrière au FC Barcelone et il est maintenant au Paris Saint-Germain. Son coup spécial, la palenka sur les pénaltys. La palenka étant une sorte de tir que nous avons évoqué dans la précédente chronique. Enchaînons avec Neymar, qui est un joueur très talentueux pour les dribbles. Il a commencé sa carrière au Santos FC, un club brésilien, puis est allé au FC Barcelone et il est à ce jour au Paris Saint-Germain. Son coup spécial, le coup du sombrero, dont je vous parlerai la semaine prochaine avec d'autres dribbles. Et enfin, je termine avec celui que nous connaissons tous, qui nous a bouleversés pendant le Mondial 2018, Kylian Mbappé, et qui est aussi le joueur préféré des Français. Son coup spécial, tout le monde le connaît, c'est la vitesse. Je vais clore ma chronique de ce matin avec ce petit point FIFA, Pelé. C'est le joueur le plus fort de FIFA avec une carte foot de 98. Diego Maradona, c'est le deuxième meilleur joueur avec une carte foot de 97. Toutes les icônes du football que je viens de vous citer plus d'autres sont sur l'équipe gratuite se nommant Soccer Aid. C'est fini, j'espère que ça vous a plu.
Merci Naël, ben écoute, je suis contente parce que je les connaissais tous de nom, c'est déjà ça. Merci à tous pour cette belle émission, c'était vraiment cool. Moi je rappelle que tous nos chroniqueurs de ce matin, Camille, Amy, Ben, Liam, Naël et The Monitor sont des chroniqueurs amateurs, que cette émission a été permise grâce au soutien des bibliothèques de Compiègne, qui a organisé des ateliers d'écriture pour produire cette émission, et merci à Graphite de nous ouvrir les studios une nouvelle fois pour expérimenter en réel ces ateliers et leur production. On se retrouve vite pour une nouvelle matinale parce que ce n'est pas fini. Et j'invite les auditeurs qui ont envie de réagir sur des choses qui ont été dites ce matin à réagir sur la page Facebook de Graphite, sur l'Insta de Graphite ou sur mon Insta perso, AYGBleu. Voilà, likez la page, toutes les pages d'ailleurs, ça vaut le coup. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec le poète du rock dont nous a parlé Ben, Chuck Berry, et son titre Johnny B. Good.
Au revoir.